Pensez.
Nous avons tendance à considérer que le sable est comme l'air, une ressource inépuisable, il n'en est rien. C'est ce que nous allons voir avec vous, Christian Buchet. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes historien de la mer, expert maritime, économiste, en duplex de nos studios parisiens ce matin. Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Et vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi un très beau livre qu'on a ici. Je dois dire que la couverture donne vraiment envie. Ce livre intitulé « La grande histoire vue de la mer » qui aborde l'histoire humaine sous le prisme du maritime, mais surtout, vous avez publié en 2015 le livre noir de la mer aux éditions du Moment, dans lequel vous nous alertez sur la problématique de l'extraction du sable marin. Et dans nos studios à Genève, nous avons notre deuxième interlocuteur, c'est Pascal Peduzzi. Bonjour.
Bonjour Julien.
Bonjour, vous êtes le directeur scientifique du GRID Genève, programme des Nations Unies pour l'environnement, et vous êtes professeur au département des géographies et environnement de l'Université de Genève, et surtout, vous êtes l'auteur du rapport du PNUD sur la raréfaction du sable. Ce sable si banal est donc en train de disparaître. C'est surprenant, Sarah. Vous nous donnez quelques chiffres?
Alors Julien, 200 tonnes de sable, c'est ce que nécessite la construction d'une petite maison. En comparaison, une centrale nucléaire, c'est 12 millions de tonnes.
On est déjà dans des chiffres gigantesques.
Incroyable, gigantesque. Ouais. Et c'est pas fini. Il faut 30 000 tonnes de sable pour faire un kilomètre d'autoroute. La Chine, durant ces 4 dernières années, a consommé autant de sable que les États-Unis en un siècle. On est vraiment, Julianne, accro au béton. Mmh. Le béton, c'est un tiers de ciment pour deux tiers de sable. L'humanité extrait 50 milliards de tonnes de sable et de granulats par an, pour une valeur évaluée à 70 milliards de dollars. Un marché, vous l'imaginez, colossal, ouais, avec son cortège de mafias. Notre société est édifiée sur du sable, sable nécessaire pour la fabrication du verre, des composants électroniques, donc des ordinateurs, des smartphones, mais il entre aussi dans la composition des cosmétiques, de nos plastiques, des panneaux solaires.
Et moi, je ne le savais pas, tout ça.
Et on en
je
trouve
découvre
même,
là, ce matin.
Vous savez où on en trouve? Dans l'agro-industrie. Sable, Julianne, c'est la deuxième ressource la plus utilisée après l'eau. Alors, je m'adresse à vous, Pascal Peduzzi, à vous, enfin, le géographe que vous êtes. Le sable, c'est quoi? C'est finalement le résultat d'un très long processus d'érosion?
Oui, absolument. Donc, l'érosion chez nous de la part des glaciers ou des rivières, ou alors au bord de la mer, l'érosion des vagues. Ça peut également être dans les déserts, d'érosion éolienne. Donc, toutes sortes de processus. Il y a différents types de sable. Les sables que nous trouvons principalement sur nos plages, du sable de silice, qui est ce qui reste de plus dur après le processus d'érosion des glaciers. Mais si vous êtes sur des petites îles, où il y a plutôt du sable d'origine calcaire, du fait de la fragmentation des coquillages ou des coraux. Donc voilà, il y a différents types de sable. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement accro. Pour rajouter à votre chiffre, parce que quand on parle de milliards de tonnes, ça parle peut-être pas trop en quantité.
On ne sait pas tellement ce que ça représente.
Ouais, alors pour donner une idée,
ça a l'air énorme, mais bon.
On pourrait construire, rien que pour la construction, donc pour le béton, on pourrait construire en mur de plus de 20 mètres de haut et 20 mètres de large tout autour de l'équateur chaque année. Voilà, ça c'est la quantité de sable que nous utilisons uniquement pour la construction. À cela s'ajoutent encore d'autres types d'applications, vous l'avez mentionné, industrielles, et des applications pour le renflouage des plages ou pour gagner du terrain sur la mer.
Mais à vous entendre, Pascal Peduzzi, ça veut dire que le sable n'est plus ou pas une ressource renouvelable?
Alors, c'est une ressource qui se renouvelle tellement lentement qu'à l'échelle humaine, effectivement, on peut la considérer comme en stock.
Alors, oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du sable éolien, c'est-à-dire du sable des déserts. Il y a une désertification immense en ce moment sur notre Terre. Le sable du désert, le sable éolien, on ne peut pas l'utiliser pour la construction.
Alors on peut l'utiliser, mais de manière, il faut rajouter un additif. Le sable éolien, en fait, il est très très rond, parce que le processus éolien fait du sable très fin. Si vous êtes déjà allé dans le désert, vous voyez, vous prenez une poignée de sable, il est vraiment quasiment liquide. Ouais. Quand vous prenez du sable qui est d'origine d'érosion des glaciers ou des rivières, il est beaucoup plus, on va dire, carré bossu, si vous voulez, pardonnez-moi cette expression, mais voilà, il y a plus de pointes, etc., qui permettent de s'agréger, de coller ensemble, ce qui est évidemment beaucoup mieux pour faire, notamment sur les plages, vous ne pourriez pas gagner du terrain sur la mer avec du sable du désert. Il coulerait tout simplement.
C'est dommage.
Bon, en même temps, c'est bien pour les déserts.
Exactement.
Oui, c'est ça. Au moins qu'on puisse sauver ça.
Au moins ça. Comment on extrait, Pascal Pedouzi, comment on extrait le sable terrestre? On l'extrait uniquement des rivières?
Non, on l'utilise aussi dans les carrières. Donc en Suisse, par exemple, nous avons des moraines où on va extraire, donc creuser dans ces moraines, récupérer le sable et le gravier. Et ça peut être également au fond des rivières, effectivement, beaucoup de rivières dans l'est du Pacifique, dans le sud-est asiatique, quasiment toutes les rivières sont utilisées pour l'extraction de sable, et c'est là que ça fait vraiment des impacts colossaux. Quand vous changez la forme du lit de la rivière, vous créez des zones d'érosion pour les berges de ces rivières, vous également vous enlevez tout le substrat au fond de la rivière, qui est là où il y a beaucoup d'organismes qui vont nourrir les poissons, donc vous également pour les crabes. Donc ça pose énormément de problèmes environnementaux.
Alors Pascal Pedouzi, si j'ai bien compris, le sable terrestre, on l'extrait avant tout des rivières, et puis un petit peu dans les carrières, ensuite on concasse.
On peut également casser de la roche pour fabriquer du sable, oui. Ça c'est un autre processus, mais qui requiert de plus d'énergie.
Alors une fois ce sable terrestre épuisé, enfin est-il épuisé sur Terre?
Non, pas du tout. Pas on du a tout, des quantités pharaoniques de sable. Par contre, dans certains endroits, ça commence à poser problème. Et c'est surtout le rythme auquel nous sommes en train d'augmenter cette utilisation de sable. Notamment la Chine qui utilise 57% du sable mondial. Et c'est une augmentation quasi exponentielle.
Mmh. Alors Christian Buchet, vous en tant qu'expert maritime, enfin on se tourne vers vous parce qu'une fois qu'on a extrait le sable terrestre, on va commencer à utiliser le sable des plages, par exemple.
On l'utilise de plus en plus, le sable. Heureusement, pas celui des plages, parce qu'il faut réengraisser nos plages, parce que la mer monte, donc vu qu'on a besoin de plages et qu'on aime la plage pour se baigner, souvent au printemps, avant que la saison touristique ne commence, on en arrive à recharger les plages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met du sable qui vient de la mer sur les plages, donc entre tous les besoins que vous avez énumérés, plus les besoins touristiques d'avoir des plages, on prend de plus en plus de sable en mer. Alors, ça peut sembler, je dirais, un infini, pourquoi pas, à la limite, mais ça pose des problèmes tout à fait majeurs. Pourquoi? Parce que ce sable qu'on prend en mer, on le prend pas trop loin pour que ça soit pas trop profond, pas trop loin pour que ça soit pas trop coûteux à ramener, et on sait maintenant de manière certaine que lorsqu'on prend du sable en mer trop près du rivage, on clappe comme on dit, c'est-à-dire il y a un trou et la mer bouche ce trou, mais elle bouche ce trou non pas avec de l'eau, mais avec du sable, c'est-à-dire qu'elle reprend sur la plage du sable, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, et bien sûr ça provoque des problèmes de pollution, mais en prenant du sable en mer trop près du rivage, eh bien on amplifie l'érosion marine qui est probablement l'un des défis les plus graves qui soit aujourd'hui. Donc on voit que c'est un phénomène qui se mord la queue parce que demain, pour lutter contre cette érosion marine, on aura besoin de prendre encore plus de sable en mer sur un phénomène qui aura été enclenché.
Érosion marine, Christian Buchet, le chiffre est incroyable, c'est-à-dire que cette érosion du littoral peut varier de 50 cm à 1,50 m par année.
Oh, attendez, ça dépend des endroits, c'est beaucoup plus marqué. Il y a certains, sur le littoral français, à 3 ou 4 endroits, suite aux tempêtes que nous avons connues il y a une petite quinzaine de jours, il y a des reculs de 6 mètres, voire même 10 mètres par endroit. Donc vous savez, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié principalement à 82% à la dilatation thermique de la mer, des océans. Pourquoi? La mer, les océans, comme tout corps physique, sous l'effet du réchauffement, se dilatent. Donc on sait que la mer va continuer de monter. Et face à ça, si vous voulez, cette mer qui monte, avec des phénomènes climatiques majorés, quand on parle de réchauffement climatique, ça ne veut pas dire simplement qu'il fera plus chaud, ça veut dire dérèglement climatique, il n'y a pas plus de cyclones, mais les cyclones sont plus forts, les tempêtes sont beaucoup plus fortes, il y a une modification parfois des angles du vent, tout ça fait que les plages sont attaquées, le sable des plages s'en va de plus en plus. Alors vous comprenez que ce phénomène auquel vous additionnez des prélèvements de granulats, de sable pas trop loin, ça pose des problèmes majeurs. Alors là, nous sommes en Europe où c'est à peu près, on regarde à peu près, quoique, il y a un élément sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention. Dans le cadre de la France, on n'a pas le droit de prélever des matières dans la mer sans qu'il y ait préalablement une autorisation administrative, notamment une étude d'impact environnemental. C'est fait, et heureusement. Sauf que, on n'intègre pas l'impact érosion. Je vous prends un exemple très précis. Au large du banc du Maptelier, près du phare de la Coubre en Charente-Maritime, il y a un projet de prélever dans les années qui viennent 13 millions de kilomètres cubes de sable. Bon, et le préfet de région dit, écoutez, moi je peux pas forcément m'y empêcher m'y opposer alors que tout le monde est contre. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'impact au niveau environnemental. Mais l'impact érosion, monsieur le préfet, ben oui, mais c'est pas prévu par la loi. Donc il faut modifier la loi. Mais vous savez, on réforme beaucoup de choses en France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout le circuit législatif est très bloqué. Donc on voit le problème. Alors là, on est encore dans les pays européens. Si vous prenez ce qui se passe en Asie, si vous regardez Singapour, si vous regardez ce qui se passe en Chine, où là il s'agit, parce que la mer monte, donc il s'agit de gagner aussi sur la mer, et c'est le sable qui sert de jaune tampon. On se sert du sable pour gagner des kilomètres carrés sur la mer, et là on fait n'importe quoi, on étouffe purement et simplement la faune et la flore, et puis surtout on arrive à cette pénurie de sable qui pose des problèmes au niveau des pays qui en ont trop vendu, qui stoppent cette vente, mais il y a une véritable mafia du sable dont on pourra parler.
On parlera justement de la mafia du sable, mais je voudrais juste qu'on pose le décor. Pascal Peduzzi, comment fait-on pour extraire le sable en mer? On l'aspire, tout simplement?
Oui, alors il y a des grandes barges, c'est des énormes bateaux qui ont une sorte de gros aspirateur comme ça qui va aller chercher du sable au fond de la mer. Donc ce faisant, il va aspirer tous les organismes qui vivent dans ces zones qu'on appelle la zone benthique, qui est la base même de la chaîne alimentaire des poissons. Donc on va affecter la pêche. Ces organismes donc sont ensuite passés dans différents filtres avec le sable, donc ils vont mourir. Il reste que le sable va être séparé en différents types de granulométrie. Les particules les plus fines vont être rejetées parce qu'elles n'ont pas un intérêt pour la construction, ce qui va causer à l'arrière du bateau une certaine turbidité de l'eau à cause de la suspension de ces particules fines. Et ce qui est trop gros va également être rejeté. Donc on se retrouve avec une traînée au sol où tout est aspiré. Donc ça c'est énormément un problème énorme pour les organismes et pour la pêche. Et ensuite on va utiliser ce sable pour le renflouer sur des plages pour effectivement soit gagner sur la mer, soit compenser l'érosion. C'est un phénomène qui est un business extrêmement lucratif, puisque aux États-Unis ça se fait du Texas jusqu'au Maine, on renfloue ces plages qui sont effectivement sujettes à érosion.
Alors ces plages non seulement dévolues au tourisme au tourisme, mais ce sont aussi Pascal Peduzzi des barrières naturelles contre les cyclones, par exemple. Vous parliez des États-Unis.
Oui, alors effectivement, les rôles des plages n'est pas uniquement de servir d'endroit pour bronzer, mais c'est également quelque chose qui protège le littoral et qui est extrêmement dynamique. Ces plages, elles bougent en hiver, en été, elles ont un processus à elles. Elles sont aussi l'abri de faune, d'oiseaux, de crabes, etc. Donc c'est quelque chose de très important pour la protection contre ces ondes de tempête notamment. Et c'est lors d'une étude justement en Jamaïque, où je m'intéressais à la demande du gouvernement jamaïcain à l'érosion des plages en Jamaïque, on a pu découvrir que effectivement il y a tout un commerce qui se fait, et même des prélèvements de sable sur la plage elle-même pour la construction, pour refaire des plages en face de d'hôtels, etc.
Oui, vous parlez de la Jamaïque, Pascal Peduzzi, vous avez vu des hommes en armes?
Oui, absolument, c'était assez choquant, donc je ne les ai pas vus, moi. Donc c'est en 2009, quand on faisait cette étude, des villageois nous ont dit que la plage avait été volée par des individus qui sont venus avec des camions, des tracks, qui les ont menacés avec des armes. Et là, j'étais extrêmement choqué de penser qu'on puisse menacer la vie de quelqu'un pour du sable. Mais c'est malheureusement le cas, et dans passablement d'endroits.
En fait, on fait la même chose avec le sable qu'avec l'eau. Parce que aussi l'eau est confisquée à certaines populations locales.
Nous sommes dans une situation où un certain nombre de ressources sont sous pression. Ces ressources ont de plus en plus de valeur, et plus leur rareté s'exacerbe, plus il y aura évidemment de demandes pour cette ressource. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore fait le constat que le sable est une ressource importante. On pense en avoir une quantité limitée, mais dans certains endroits, effectivement, ça commence à poser problème.
Christian Buchet, du côté de la Bretagne, pas d'hommes en armes pour sauver les plages, mais tout de même des collectifs. Notamment, je pense au peuple des dunes. Donc, les gens, le collectif se mobilise justement pour garder cette ressource, ce bien commun.
Oui, commence à y avoir. Il y a eu ici ou là une certaine mobilisation. Je pense aux Robins des Sables, effectivement, qui ont réussi effectivement à s'y opposer. On est obligé effectivement de prendre du sable aujourd'hui, mais sans doute faut-il le prendre plus au large. C'est sans doute plus coûteux pour ceux qui veulent se fournir en sable. Mais encore une fois, il en va de la sécurité de notre littoral. Il en va d'un bon équilibre de la planète. C'est vraiment le défi majeur. C'est du 21e siècle. C'est probablement le sable. Vous savez, lorsqu'on avait changé de millénaire on disait souvent, ah, le 21e siècle sera le siècle du défi de l'eau douce, l'ONU a repéré 300 conflits potentiels liés au manque d'eau. Mais je crois qu'il faut mettre les choses en perspective. Les eaux douces sont très mal réparties, elles représentent que 2,5% des eaux de la planète, mais on a la mer, justement, et on sait dessaler l'eau de mer. Donc le potentiel, le véritable défi aujourd'hui, c'est le sable, dont on ne parle pas, et merci d'en parler, parce que vous l'avez dit, on s'en sert dans tout. Je crois que vraiment, s'il s'agissait d'appâter un certain nombre de chefs d'entreprise, de chercheurs, les rois du pétrole demain seront ceux qui vont trouver des produits de substitution au sable. Si on ne fait pas cela, on se prépare véritablement de graves problèmes. Pourquoi ? Parce que d'une part, on saccage, a été très bien dit par Pascal Peduzzi, la faune et la flore marine, donc ça pose des problèmes. On renforce l'érosion du littoral, encore une fois. Ce cordon lunaire, c'est très important, ce capital sédimentaire, c'est quelque chose qui nous protège de la montée de l'eau, et en prenant trop de sable en mer, ce capital sédimentaire à terre est aspiré par la mer, on a donc moins de sable sur une partie tout au moins qui n'est pas rocheux de notre littoral, et donc la mer va continuer un certain nombre de ses méfaits, et demain pour lutter contre cette érosion, il faudra encore plus prendre de sable, donc on voit qu'on est en train de casser un équilibre, et une fois que l'équilibre est détruit, c'est très compliqué. Et puis il y a un élément sur lequel on n'a peut-être pas insisté, quand vous prenez trop de sable sur certains littoraux, je pense notamment à ce qui se passe en Asie, eh bien vous avez une montée de la mer, une montée qui va provoquer une salinisation des terres, et réduire la capacité agricole, si vous voulez, de ces terres. Donc on voit qu'on est vraiment là, face aux défis majeurs, il va falloir, parce que le sable, on s'en sert dans tout un tas d'utilisations, trouver des produits de substitution.
Pascal Peduzzi, Christian Buchet disait, oh ben il faut prendre du sable plus au large. Vous approuvez, vous acquiescez?
Non, je pense qu'il y a davantage de... En fait, il y a plusieurs choses, des solutions quand on commence à se poser le problème, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire l'utilisation du sable. D'ailleurs, on en sera incapable du fait de notre dépendance. C'est 20 kilos par jour et par habitant sur la planète. Hein. Donc, on a vraiment... Il faut trouver des alternatives pour réduire déjà notre consommation. Ces alternatives, elles existent, seulement elles sont pour l'instant trop coûteuses parce que nous ne payons pas les vrais coûts de l'extraction du sable. Donc cette extraction, finalement, c'est les coûts de l'achat d'un bateau et de l'équipage, mais pas de l'achat du sable lui-même, ce qui fait que les alternatives sont trop coûteuses. Mais on pourrait déjà commencer par recycler les bâtiments quand ils sont détruits. On peut recycler une partie pour refaire de la construction. On peut construire avec moins de sable. Il y avait un ingénieur suisse qui vient de sortir en processus qui permet de faire du béton avec de la sciure de bois. Alors évidemment pas pour faire des piliers de pont, on est bien d'accord, mais pour des cloisons qui ont en plus le bénéfice d'être plus isolantes en termes de thermique, que ce soit pour la protection contre le chaud ou les déperditions de chaleur quand il fait froid. Donc pour des cloisons ça peut être extrêmement intéressant. Donc on commence maintenant à avoir des alternatives, mais si ces alternatives elles sont trop coûteuses, elles ne verront pas le jour. Donc ce qu'il faut c'est réglementer de sorte que les personnes qui extraient le sable convenablement en respectant les normes sociales et environnementales soient favorisées et ne soient pas en concurrence déloyale avec ceux qui saccagent l'environnement. Donc il faut le faire plus raisonnablement, prendre la mesure que le sable ce n'est pas une ressource infinie et puis effectivement aller plus au large, ça va limiter les problèmes d'érosion mais ça ne va pas empêcher de la destruction de la zone benthique. Donc là je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cela, mais pour réfléchir il faut commencer à se dire qu'il y a un problème. Or j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas, la mentalité n'est pas encore prête et les personnes comme Christian Buchet ou moi-même sont encore assez isolées.
Merci Pascal Peduzzi.
Alors, on a Christian toujours Buchet, le sentiment que le sable, c'est un produit infini, parce qu'il y a la mer de sable, il y a les déserts, mais ça a été dit par Pascal Peduzzi, ce sable est impropre, donc ça pose des problèmes. Donc, cessons de penser que le sable est infini, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'est à tout prendre pas très cher.
Nous verrons tout à l'heure ce qui a été mis en place par les gouvernements et institutions politiques pour freiner et encadrer cette ruée vers l'or blond, parce que c'est vraiment ça dont on parle aujourd'hui. Mais d'abord, je vous propose une petite pause. On va écouter un extrait, un court extrait du film documentaire de Denis Delestra, réalisé en 2015. Documentaire remarquable. Moi, je l'ai vu, je vous conseille vraiment de le voir. Je crois qu'on peut le voir sur YouTube d'abord, d'ailleurs, qui a permis de nous faire prendre conscience de ce phénomène. C'est donc le titre de cette enquête, le sable, sur une enquête sur une disparition.
Aux Maldives comme ailleurs, c'est l'intervention humaine qui est à l'origine de la disparition des plages. Traditionnellement, les pêcheurs de sable s'approvisionnent dans les lagunes qui bordent les îles pour revendre la matière première aux promoteurs. Ces prélèvements incessants ont déjà forcé l'évacuation de plusieurs centaines d'îles. Les populations déplacées s'entassent maintenant sur d'autres îles plus vastes et mieux protégées. Malé, la capitale, est déjà surpeuplée. Et la demande de logement y est satisfaite en construisant toujours plus d'immeubles. Mais comble de l'absurdité, ce boom de la construction est alimenté par du sable que l'on persiste à aller puiser dans les lagunes voisines. Ce même sable qui était supposé protéger les îles et leurs habitants de la montée des eaux. La disparition du sable est globale. Et loin des plages, se livre derrière des façades obscures une guerre des marchés où, au nom du profit, le sable est sacrifié.
La plupart des gens ne peuvent pas se permettre un logement décent. Beaucoup de bâtiments et d'appartements sont construits à des fins spéculatives. À Bombay, on estime que plus de la moitié des appartements ne sont pas habités. Ils sont retenus par les promoteurs qui spéculent.
Mais on continue de construire. Et comme ceux qui en ont vraiment besoin n'ont pas accès à ces logements, la population des bidonvilles connaît une croissance exponentielle.
Bombay n'est pas un cas isolé. Nous avons créé un paradoxe alarmant. Un tiers de la population urbaine vit dans des bidonvilles, tandis que des cités fantômes et des appartements vides se construisent un peu partout dans le monde. En Chine, 65 millions de logements sont vides. Pourtant, la construction est florissante et avale un quart du sable extrait sur la planète. L'Espagne détient le triste record du pays qui a utilisé le plus de sable en Europe, pour rien. Alors qu'elle connaît une crise du logement sans précédent, 30% des habitations construites depuis 1996 sont inoccupées. Des aéroports entiers ont été édifiés, mais n'ont jamais vu un passager. Et Dubaï ? Eh bien, l'Émirat continue de bâtir et d'importer du sable, même si 90% des appartements du Burj Khalifa sont vides.
Quand vous prenez du sable et que vous le coulez dans du béton, eh bien, ce sable est emprisonné pour toujours. Il n'existe plus en tant que ressource.
Infinite Nature, c'est tiré de l'album Between the Dusk of a Summer Night. C'est un compositeur, un auteur et pianiste polonais, on l'a entendu à l'instant, qui s'appelle Sébastien Sawatzki. Aujourd'hui, dans Versus Pensée, nous nous intéressons à la disparition inquiétante d'une ressource que nous pensions infinie, le sable. Avec nous, en duplex de nos studios à Paris, l'historien de la mer Christian Buchet. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche de la mer à l'Institut catholique de Paris, auteur de la grande histoire vue de la mer aux éditions du Cherche Midi et en 2015 du Livre noir de la mer aux éditions du Moment. Et en duplex de Genève, nous sommes en contact avec vous, Pascal Peduzzi. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique du CRI de Genève. Vous êtes également professeur au département de géographie et de l'environnement de l'Université de Genève. Alors, dans l'extrait du documentaire Le sable enquête sur une disparition qu'on vient d'entendre, un petit extrait, un chercheur disait: Une fois que le sable est pris dans le béton, il est emprisonné à jamais. Alors, si nous détruisons des immeubles en béton, est-ce qu'on peut réutiliser le sable, Pascal Petuzzi, ou est-ce qu'il est perdu à jamais?
Alors, nous pouvons réutiliser une partie du béton, pas la totalité pour refaire l'intégralité du béton, mais jusqu'à 20%, on peut réutiliser pour remettre ça en service. Donc, on peut à essayer de rentrer dans une économie circulaire. On peut aussi
utiliser... Une sorte de recyclage, comme ça.
Oui, hein. Du recyclage ou de la réutilisation. On peut utiliser également, au lieu d'utiliser du sable pour mettre sous nos autoroutes, on peut utiliser les gravats de béton. Donc, il y a différentes applications. Mm-hmm. C'est un peu ridicule de mettre nos plages sous des autoroutes. Donc, on peut utiliser... Il faut d'ailleurs que nous rentrions dans une économie plus circulaire. Et c'est finalement une des meilleures solutions. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes dans une économie linéaire où nous extrayons toutes sortes de matériaux. On les utilise, on en fait des objets ou et des infrastructures, c'est utilisé, ensuite c'est démoli et c'est mis en décharge. Donc si on est dans une économie linéaire, évidemment, on verra un gaspillage énorme. Lors d'une économie circulaire, on remet et on fait chaque objet en sachant où vont aller ses composantes à la fin de la vie de l'objet ou de l'infrastructure. Et dès lors, on peut faire quelque chose de plus circulaire. J'étais récemment dans les Pays-Bas, où là, ils ont vraiment appliqué ça à la lettre et où ils sont en train de récupérer, même dans les cendres des déchets, énormément des métaux intéressants. La fin de ces cendres est réutilisée pour faire du béton. Donc, on peut avoir une équilibre beaucoup plus circulaire.
Alors, pour faire du béton, il faut un tiers de ciment et deux tiers de sable pour faire des vitres. Combien faut-il de sable? 65%, dit-on. Est-ce que c'est le cas, Pascal Petuzzi?
Alors, je suis pas le spécialiste de tous ces matériaux, mais effectivement, l'utilisation principale, c'est quand même pour la construction et pour le renflouage des plages ou le gain sur la terre. Le reste, c'est, disons, le sable, l'utilisation industrielle, on parle de 180 millions de tonnes par année. Ça représente donc 0,5% de l'utilisation du sable actuel. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Mais effectivement, le verre, l'électronique, toutes sortes d'utilisations, vous les avez mentionnées en début d'émission, sont également gourmands et dans certains endroits peuvent occasionner énormément d'impact. Mais c'est quand même marginal.
Mais justement, Pascal Petuzzi, pourquoi utilise-t-on du sable dans nos microprocesseurs, dans nos smartphones? Quelle est la propriété? Le silicium, enfin, pourquoi on l'utilise?
Alors, il y a toutes sortes de... les composants dans smartphone, c'est extrêmement complexe. En fait, on parle de 70 kilos de matériel pour fabriquer un smartphone. Donc, il y a toutes sortes de processus pour extraire des différents éléments, notamment des terres rares, qui sont des sortes de sable, comme son nom l'indique, extrêmement rares. Et pour les trouver, on peut saccager une île entière pour trouver quelques kilos de cette terre rare ou quelques tonnes, quand même.
C'est quand même gravissime, hein. Tout ça simplement pour ces petits outils qu'on utilise tous les jours, les smartphones. Ça veut dire qu'il faut vraiment révolutionner aussi l'utilisation du smartphone. Enfin, je sais pas. C'est vrai que ça pose des tas de questions.
Ça pose des tas de questions parce qu'on utilise aussi, Juliane, ce sable. Christian Buchet, on l'utilise en agriculture, en Bretagne, par exemple. Ça, je ne savais pas du tout. C'est du sable coquillé pour fertiliser les terres, c'est ça?
Tout à fait, vous avez quasiment 180 minéraux dans le sable. C'est absolument dément. Même en cosmétique, on se sert du sable. C'est-à-dire que le sable, c'est pas uniquement pour le parpaing, c'est vraiment dans tout un tas de domaines. C'est vraiment un bien tout à fait précieux. C'est pour ça, l'enfermer, le détruire, le faire disparaître dans du béton ou autre, c'est un non-sens. Bon, ça va aller tant qu'on ne mesurait pas les choses, mais il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Vous savez, si on met les choses en perspective, nous ne sommes jamais que bientôt 8 milliards de terriens en 2025. On devrait culminer à 9 milliards, 1, 9 milliards 3. Donc on voit qu'il va y avoir probablement 2 milliards de terriens d'ici 32 ans, soit deux fois la population mondiale de 1804. Donc c'est dire qu'il y a une pression terrible et cette population mondiale va se trouver concentrée à 75% sur la bande littorale. C'est-à-dire, on veut des plages, on va prendre de plus en plus de sable au sein de la mer. Donc il y a vraiment une prise de conscience parce qu'on peut faire autrement. Pascal Petuzzi l'a dit, il faut passer une économie circulaire, il faut récupérer. Si on ne fait pas cela... on va dans le mur, véritablement. Alors qu'on peut, par la recherche, trouver des produits de substitution. On a évoqué la sciure du bois, les algues, c'est tout à fait quelque chose de tout à fait étonnant. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui insister sur cette prise de conscience pour donner des moyens au niveau de la recherche. Et véritablement, il y a de belles opportunités pour tous les produits de substitution au sable.
Alors, belle opportunité, Christian Buchet, j'entends bien, mais comment faire aussi pour lutter contre les gros lobbies de l'extraction du sable?
Ah, ça, c'est compliqué. C'est compliqué Pourquoi? Parce que ce sont des gros lobbies, ils ont un certain moyen de pression. Moi, j'ai confiance dans les assureurs, mais j'ai eu l'occasion d'intervenir récemment devant une grosse compagnie d'assurance que je ne nommerai pas. Ils n'avaient pas véritablement conscience de ces enjeux-là. Je leur disais, mais attendez, est-ce qu'il ne faut pas mieux, pour une fois, agir de manière préventive que curative? Si aujourd'hui, vous ne faites pas attention, vous qui assurez tout un tas de maisons au bord de la mer, vous ne pourrez pas dire, on ne rembourse pas l'érosion marine. Il faut peut-être agir en aval pour éviter que certaines maisons passent sous l'eau, parce que ça vous coûtera moins cher. Donc je pense qu'un certain nombre de gros assureurs ont peut-être intérêt aussi à faire prendre conscience à de gros lobbies qu'il faut trouver quelque chose. Parce que, c'est rentable aujourd'hui l'exploitation du sable, pour ça qu'il y a même des mafias. Mais en même temps, attention, nous sommes tous parents, grands-parents, donc on voit bien qu'il y a un autre comportement, et je crois qu'il y a plus à gagner peut-être en trouvant des produits de substitution au sable. Encore une fois, essayons de gérer le temps d'eux et pas être enfermés dans des comportements totalement sclérosés vu la pression démographique.
Pascal Peduzzi, vous êtes, on l'a dit, directeur scientifique du GRID. Hein. Alors le GRID,
Moi, je me demandais ce que c'était exactement.
Le GRID, c'est la base de données du PNUD, du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, c'est ça, Pascal Peduzzi?
Oui, c'est un bureau qui est chargé de transformer les données en informations, donc on passe par exemple des images satellites et à des cartes ou à n'importe quel en fait type de données, surtout géospatiales, et les transformer dans des rapports, dans des tables, des cartes et des moyens qui puissent informer les gouvernements.
Et donc vous êtes également auteur du rapport du PNUD hein, sur la
rareté. Pardon. PNUD, c'est le programme Nations Unies pour le développement, et nous, c'est le programme Nations Unies pour l'environnement.
C'est
deux phases de la même pièce.
Pour la réfection du sable.
Qui a son importance.
Et c'était en 2014. Alors, quelles sont, en fait, les réglementations, suite notamment peut-être au rapport, et même auparavant, il y a eu des réglementations qui ont été mises en place au niveau international, notamment en Afrique, dès le début des années 2000. Ces réglementations, on les contourne?
Non, d'abord, il n'y a pas de réglementation globale sur l'exploitation du sable. C'est des réglementations nationales ou régionales, comme c'est le cas en Europe, où il y a plusieurs réglementations en place. Et c'est relativement bien respecté pour l'Europe. Pour d'autres pays, dans certains pays, il n'y a rien. Il n'y a pas de loi qui interdise ou qui réglemente l'extraction du sable, ce qui fait que vous pouvez avoir des camions qui vont se servir sur des plages. Et dans le cas où il y a des réglementations, elles ne sont pas toujours respectées et vous pouvez avoir beaucoup de contournements. Il faut voir qu'en Inde ou dans d'autres pays qui sont vraiment en train de se développer, qui ont besoin d'infrastructures, des aéroports, des routes, des maisons, les gouvernements locaux n'ont aucun intérêt à surveiller de trop près d'où vient le sable, parce que finalement ils ont besoin de ces infrastructures. Donc vous êtes confronté à une balance d'intérêts qui pour l'instant est vraiment du côté du développement. Et bien sûr, ils ont besoin de ces infrastructures. Mais si ce faisant, ils sont en train de détruire leur littoral qui peut servir aux activités touristiques ou leur protection contre l'érosion, évidemment, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc il faut maintenant réglementer. Il ne s'agit pas de tuer cette industrie, mais de beaucoup mieux l'encadrer, de sorte qu'elle se fasse dans le respect de l'environnement et sur du long terme, comme le disait Christian Béget.
Le sable pour les constructions en Indonésie, par exemple, vient d'où ?
En grande partie de la mer. Mais ce qu'il faut savoir aussi, vous faites du béton, quand vous faites du béton, il y a un élément sur lequel il faut insister, c'est que le béton, le sable salé est impropre pour un bon béton. C'est-à-dire votre béton, votre sable, il faut le laver. Bien sûr, vous n'allez pas le laver à l'eau de mer parce que vous allez pas retirer le sel. Il faut le laver à l'eau douce. Donc là, on croise les problématiques. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez une déperdition considérable. Il y a des endroits, on l'a évoqué au niveau de Dubaï, il y a eu des projets mais où ils ont saccagé, ils ont fait, vous savez, les fameux palmiers, etc. Ils étaient quasiment au bord d'ailleurs du chaos immobilier, avec des problèmes environnementaux. On a vraiment, aujourd'hui, on ne réfléchit pas sur le long terme, sur ce que ça peut provoquer. Donc véritablement, le sable, faisant attention en plus de pas gaspiller l'eau qui va avec au niveau de l'eau douce pour construire.
Oui, parce qu'il faut le nettoyer, vous le dites, Christian Buchet.
À l'eau douce.
À l'eau douce, donc on utilise aussi une autre...
C'est un paradoxe incroyable.
On utilise également une autre ressource. Au Maroc, par exemple, on voit qu'on ne le lave pas, ce sable, parce que ce sable est issu de la mafia. Et conséquences sur les constructions futures?
Bah écoutez, au bout d'un certain temps, mais on l'a tous vu ça, pour peu qu'on soit un petit peu déplacé, ce béton s'effrite, on voit des pans qui sont grignotés, c'est pas un béton lisse, ça s'effrite, au bout d'un certain temps, ça peut même devenir véritablement dangereux, et c'est parfaitement hideux. Donc on voit à quel point cette logique de profit absolument avec des mafias, on fait du n'importe quoi, et Pascal Pinouzi l'a dit, les états, de grands états comme la Chine, l'Inde, ferment les yeux, quand vous avez le président chinois qui lance cet immense projet, qui peut se comprendre, qu'on appelle les grandes routes, les nouvelles routes de la soie, avec un développement d'infrastructures sans précédent. Pourquoi pas? Mais je dirais, on va trop vite par rapport aux ressources, il va falloir probablement faire différemment, mais on ne l'intègre pas, parce que tant que ça marche et tant que ça a du profit, on va pas voir ailleurs. Il faut toujours attendre quasiment le niveau de crise qui fait que les prix explosent, mais c'est souvent trop tard. Pour une fois aujourd'hui, on est obligé d'avoir un coup d'avance. On l'a pas sur le sable.
Pascal Pedouzi, lorsque je disais, mais d'où vient-il ce sable lorsqu'on construit en Indonésie? Il vient d'où? D'Australie?
Ils ont suffisamment de sable. L'Indonésie est plutôt un pourvoyeur de sable, l'était, pour le Singapour. Donc Singapour a étendu son territoire d'à peu près 20%, ce qui est considérable, en utilisant des plages ou du sable marin provenant d'Indonésie, de Thaïlande, de la Malaisie ou encore même jusqu'au Cambodge. Et en fait, suite à l'utilisation du sable de l'Indonésie par Singapour, une quinzaine d'îles, ou peut-être même une vingtaine d'îles de sable, inhabitées certes, ont disparu par le processus qu'avait écrit plus en avant Christian Buchet. Donc ce sable qui coule, et ça pose un problème parce que ça modifie les frontières même du pays, puisqu'on calcule les frontières à distance de la terre émergée.
Vous-même,
vous avez même un paradoxe qui est inimaginable, parce que vous venez évoquer Pascal Pedouzi, c'est-à-dire qu'il y a des îles qui disparaissent, qu'on a pris le capital de sable, donc que les frontières maritimes de ce pays changent, et vous avez un pays qui s'appelle la Chine qui construit des îles artificielles naturelles en faisant des tas de sable à partir du fond pour les faire dépasser en surface, pour leur faire dire voici une île, donnez-nous le domaine maritime. Donc on voit qu'on est dans un délire le plus complet.
Que ça soit vous, Pascal Pedouzi, ou vous, Christian Buchet, est-ce que vous avez bon espoir dans ce grand défi du 21e siècle qu'est la gestion de ce sable?
Ça a l'air plutôt mal parti. J'ai l'impression à vous entendre.
Oui, il y a de l'espoir. La première chose, c'est de prendre conscience finalement qu'il y a un problème avec le sable, parce que pour l'instant, il n'y a pas cette prise de conscience du point de vue international. Donc c'est de mettre ça sur l'agenda des gouvernements. Et une fois qu'on aura pris conscience de ceci, on peut trouver des solutions, on peut commencer à discuter, on peut donner un cadre, légiférer, réglementer pour que cette ressource soit exploitée de manière beaucoup plus durable qu'elle ne l'est actuellement. Et j'ai espoir, parce que si on n'a pas d'espoir, on arrête tout de suite de faire le travail que je fais, car finalement, l'histoire du sable, c'est la même histoire qu'on peut avoir avec la surpêche, avec la déforestation, avec toutes sortes de problématiques basées sur l'extraction des ressources naturelles. C'est finalement cette histoire de cette économie linéaire dont je parlais avant, et il faut vraiment passer à une économie circulaire.
Donc il faudrait aussi une gouvernance, peut-être, gouvernance du sable comme le GIEC pour le climat, il faudrait une gouvernance générale.
Ce sera intéressant, en tout cas moi je m'efforce d'organiser une conférence, une conférence internationale où on mettrait les différentes parties ensemble, que ce soit les extracteurs, les utilisateurs, les gouvernements, de sorte à trouver une solution, de commencer à réfléchir à des solutions. Peut-être qu'il faudrait inventer un label, comme on a le Forest Stewardship Council, on pourrait avoir le Sand Stewardship Council qui dirait que ce sable est extrait avec le respect de l'environnement.
Et vos questions, Buchet, très rapidement,
Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Il y a de l'espoir à condition qu'on en parle. Merci de nous permettre de le faire ce matin. Tant que les politiques, les dirigeants n'auront pas conscience de cette pénurie, des dangers, des conséquences en termes d'économie, parce qu'il ne s'agit pas simplement de développer l'écologie, mais il n'y a pas d'opposition. C'est l'économie de ces pays, l'économie touristique, l'économie immobilière qui va être impactée. Donc je crois que très rapidement, ils vont en prendre conscience, à condition que vous, médias, vous parlez en montrant bien que c'est l'un des défis majeurs, pour pas dire le grand défi du 21e siècle.
C'est peut-être la bonne action du jour. En tout cas, on a essayé de faire une bonne action.
Ben merci.
On vous remercie tous les deux. Alors, je rappelle Christian Buchet, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche de la mer de l'Institut catholique de Paris. Vous venez d'écrire La grande histoire vue de la mer aux éditions du Cherche Midi. Le livre, on l'a ici, il a l'air magnifique. Je conseille tous les auditeurs peut-être de se le procurer. Et d'autre part, vous avez aussi écrit en 2015 le livre noir de la mer, paru aux éditions du Moment. Et je voudrais aussi remercier Pascal Peduzzi, vous êtes le directeur scientifique du GRI de Genève, professeur au département de géographie et environnement de l'Université de Genève. Vous êtes l'auteur aussi d'un rapport qui s'appelle, comment est-ce que ça s'appelle encore, Sarah?
Sur la raréfaction du sable, c'était en 2014, et c'est pas au PNUE, non pas PNUD, développement, mais environnement, les programmes des Nations Unies pour l'environnement.
Merci beaucoup à vous tous, merci à vous aussi Sarah, et puis on va se plonger dans ce livre le plus vite possible. En tout cas, moi je vais le feuilleter juste après avoir écouté un peu de musique, parce qu'on